Nous allons pouvoir commencer. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Ophélia Leroy, qui est chargée de cours à l'Université Paris 12 et qui va traiter d'un sujet qui est particulièrement d'actualité, me semble-t-il, à savoir la philosophie contemporaine doit-elle être relativiste et peut-elle l'être ? Je me permets de signaler à ce propos que François Recanati vient de publier un livre intitulé « Perspectival Thought », donc la pensée perspective, avec comme sous-titre un plaidoyer pour un relativisme modéré. Donc je ne sais pas quel genre de position Ophélia Leroy s'apprête à défendre sur cette question, de savoir si nous devons accepter ou non une forme de relativisme quelconque, et si celui-ci doit être modéré ou au contraire radical. Vous avez la parole.
Donc merci beaucoup de cette invitation. Donc la question que je vais traiter aujourd'hui, la philosophie doit-elle être relativiste ? Et peut-elle l'être, se pose bien évidemment donc à propos de la philosophie elle-même. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être relativiste à propos des systèmes philosophiques ou des propositions philosophiques ? Savoir si on doit l'être, c'est la seconde question que je voudrais examiner ici. Mais pour préciser, cette prise de position à l'égard de la philosophie n'implique rien quant aux autres formes de relativisme qu'on pourrait par ailleurs soutenir, comme par exemple François Recanati, justement, sur le relativisme de la pensée en général, de nos croyances, de la connaissance, du langage, ou des normes esthétiques ou morales. D'accord ? Donc il s'agit uniquement d'un relativisme restreint sur le domaine propre dont ce séminaire traite. Alors, ce qu'on peut dire d'emblée, c'est que quand on s'intéresse au système philosophique, le relativisme, à première vue, est une position sinon tentante, du moins qui nous tend les bras. On cherche en effet à s'accommoder de la variété des systèmes en cours et, pour le dire ainsi, de leur égale dignité. Comme l'a dit récemment dans un ouvrage intitulé « La peur de savoir » le philosophe américain Paul Bogossian, le relativisme semble promettre quelque chose, en effet, comme l'égale validité des perspectives en jeu. Être relativiste, là il s'agit d'un exemple simplement, donc être relativiste en matière de goût, c'est reconnaître l'égalité des jugements suivant les épinards sont délicieux et les épinards ne sont pas délicieux. Les deux, nous promet le relativisme, peuvent tenir et valent autant l'un que l'autre. Aucun jugement n'est fautif, on ne peut pas non plus considérer qu'il y ait une information décisive que l'un des deux goûteurs ignore ou ne prend pas en compte. Et ils jugent tous les deux par rapport à une même dimension, savoir si un certain aliment est bon ou pas. Et pourtant, donc, promesse du relativiste, les deux sont également, ces deux jugements sont également valides. Le problème est que le relativisme est une position controversée et traditionnellement mal considérée parmi les philosophes, sinon en dehors d'eux. Je vous laisse méditer les propos, par exemple, de Benoît XVI contre le relativisme. Il doit donc paraître à première vue, en tout cas si on reste dans le domaine philosophique, que la philosophie puisse devoir s'appliquer à elle-même une épithète qu'elle affectionne si peu. Mais il faut bien voir, donc, comme je le précisais au début, qu'il n'y a pas de lien entre le type de position qu'on adopte à propos de la philosophie et celle qu'on adopte dans sa philosophie, de sorte qu'il se peut très bien que l'on puisse accepter une forme de relativisme métaphilosophique sans l'être ailleurs. Je m'engage ici donc à considérer la force du relativisme à propos des systèmes philosophiques sans soutenir aucune autre forme de relativisme. Pour le reste, en philosophie, à propos de la philosophie donc, quelle force peut avoir une lecture relativiste ? Il faudrait d'abord qu'on s'accorde sur le sens de ce terme, qui est loin d'être clair, et comme je l'ai souligné, charrie avec lui un grand nombre de connotations polémiques. On peut se demander, dès lors, comment transposer ce concept au débat sur la philosophie sans les emmener, ces connotations, avec soi. Par connotation négative, j'entends l'idée que le relativisme ruine les notions auxquelles il s'applique en leur ôtant à la fois leur cohérence et leur distinction. Comme dans le cas, par exemple, du relativisme à propos du goût, finalement, l'idée, c'est que si tous les jugements se valent, finalement, rien, n'importe quoi vaut autant qu'autre chose. Tout et son contraire vaut, comme le dit l'expression. On peut aussi, du côté des connotations négatives, se souvenir de l'argument décisif de Socrate dans le Théétète à l'encontre de ce qu'on cite souvent comme la formule phare du relativisme, à savoir la doctrine de l'homme-mesure de Protagoras, argument qui consiste, je ne vais pas le rappeler, à montrer que le relativisme est contradictoire. Ce n'est pas vers cette version antique protagoréenne du relativisme. On voudrait savoir si Protagoras a réellement été relativiste. Le terme relativiste lui-même date du 19e. La plus ancienne mention qu'on puisse trouver, c'est en 1846 chez Hamilton, au dire de ceux qui ont mené l'enquête. Je défère de ce côté-là. Mais donc, c'est une vision rétrospective qui nous fait considérer qu'il y a du côté de Protagoras ici le paradigme du relativisme. Je ne vais pas m'intéresser donc à cette version ni à son interprétation platonicienne, mais vers les nouvelles versions du relativisme qui sont aujourd'hui débattues par des philosophes comme Paul Bogossian, que j'ai déjà cité, John McFarlane, qui enseigne à l'université de Berkeley, Max Kobel, Robert Stanlaker, Crispin Wright, et puisqu'on va étendre la discussion à ces versions du relativisme qui sont en réalité, comme je voudrais le montrer, des contextualismes, David Kaplan, Jason Stanley ou François Recanati. On pourrait étendre la liste des participants de ce débat contemporain pour inclure des linguistes comme Peter Lazarson ou des études expérimentales comme celle menée par Stephen Stitch. Tout ce que cette liste de noms doit suggérer, sinon qu'il faudrait aller lire ces auteurs qui ont des arguments très intéressants, c'est que le débat sur le relativisme philosophique est loin d'avoir été éteint par les arguments de Platon et d'Aristote, et certainement la doctrine protagoréenne n'était ni la seule ni la plus adéquate version du relativisme. Ce que cette liste de noms suggère par ailleurs, c'est la vitalité du débat, et c'est ce point-là qui va me permettre d'entrer plus immédiatement dans mon sujet d'aujourd'hui. Le point de départ de cette discussion, c'est en effet que la philosophie est affaire de débat, de dispute, si vous préférez. Le débat est consubstantiel à la pratique de la philosophie, ce qui est une sorte de platitude, mais c'est par quelques platitudes que je voudrais commencer pour éviter d'avoir à répondre à des questions trop massives, du moins pour moi, sur ce que doit être la philosophie avec un grand P, si elle consiste en propositions isolées, en systèmes de propositions, et en lesquelles, si elle est un art, une science, une thérapie, question qui nécessite qu'on en résolve d'autres, comme celle de savoir de quoi parle au juste la philosophie, quel rapport elle entretient avec la vérité, quel genre de vérité, si genre de vérité il y a. Trop de questions pour qu'on voit jamais, pour reprendre le mot de Churchill en 42, le début de la fin ou la fin du début. Le raccourci que je propose donc ici de prendre est de partir d'une description de la pratique philosophique et de considérer pour cela les trois platitudes que j'ai reprises sur le formulaire qui vous a été distribué. Le problème, comme je vais le montrer, c'est que ces trois platitudes ne sont pas faciles à réconcilier. De sorte qu'après avoir dit oui à chacune, on se trouve en position de devoir en refuser au moins une. Ce qui est un peu problématique, on en convient, si elle doit être descriptive de notre pratique. Il est possible de se défaire de l'une d'entre elles. Et je voudrais suggérer c'est ce que nombre de philosophes de la philosophie sont tentés de faire. Mais c'est alors au prix d'une entorse à une adhésion première que je n'estime pas arrachée. Il faudrait reconnaître ainsi que nous avons fait fausse route dans notre description de ce que nous faisons. Et ce que le relativiste ou du moins une certaine forme de relativisme propose de faire, et ce qui est alors extrêmement tentant, c'est de conserver ces trois platitudes. Comment et à quel prix ? C'est ce qu'il va s'agir de voir. Et donc, pour annoncer la structure, j'ai exposé d'abord ces trois platitudes, montrer pourquoi le relativisme peut prétendre les conserver, suggérer les problèmes qu'il y aurait à se débarrasser de l'une d'entre elles, et enfin voir exactement la façon dont le relativisme prétend garder ses platitudes. Donc d'abord les raisons d'être relativiste avant les questions de possibilité. Alors les trois platitudes sont les suivantes. Platitude numéro 1, les philosophes sont en désaccord les uns avec les autres à propos de la philosophie. Platitude numéro 2, les désaccords philosophiques sont persistants sans pour autant être vains. Platitude numéro 3, la philosophie s'occupe de problèmes objectifs. Alors si vous refusez d'emblée l'une de ces trois platitudes, vous êtes certainement dans une des positions qui va être esquissée par la suite. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura une voie de sortie pour chacun. Mais il semble qu'on ait, et c'est ce que je vais détailler, des raisons d'admettre chacune de ces platitudes. La première, je l'ai détaillée un petit peu pour voir exactement ce à quoi on s'engage. La première, les philosophes sont en désaccord les uns avec les autres. C'est ce qu'on apprend très vite en philosophie. Il y a des débats. Et ce qui fait que cette platitude n'est pas complètement vide, c'est qu'elle précise que ces désaccords sont authentiquement philosophiques. Par authentiquement philosophique, il faut entendre que les parties en présence s'opposent pour une certaine raison, pas pour le plaisir de débattre, et que leur désaccord concerne le contenu même de la discussion philosophique en cours, et pas un contenu extérieur, comme par exemple des différences de croyances d'arrière-plan. Par désaccord, il faut entendre une stricte incompatibilité entre les options, en l'occurrence la contradiction. Malgré des récentes suggestions de Max Koeppel, je ne vois pas d'autre façon de concevoir le désaccord, pour que deux personnes, A et B, soient en désaccord, que de considérer que ce que dit A de l'objet X est le contraire de ce que dit B du même objet. S'il ne parle pas exactement du même objet, le désaccord n'a pas lieu d'être. Ce qui, en passant, suggère que cette trivialité engage un certain nombre de principes classiques. Il y a P et non P et rien au milieu. Ainsi, parler de désaccord, ce n'est pas uniquement signaler qu'il y a une cacophonie ou noter que les voix sont discordantes en philosophie. C'est donc plus qu'une simple observation. Il y a souvent beaucoup d'efforts qui est nécessaire pour traquer le désaccord, pour parvenir à le formuler, à le définir précisément. Et ce fait d'arriver, de parvenir à un désaccord net fait aussi partie intégrante de la philosophie. Le débat philosophique, pour le dire encore autrement, est souvent opaque et il faut du temps pour y cerner les deux propositions qui s'opposent. Prenez par exemple le débat entre réalisme et anti-réalisme et les diverses formulations qu'il essaye de prendre pour que les deux positions parviennent exactement à se cristalliser dans des propositions, des systèmes de propositions contraires. Il semble donc que la première trivialité, la première platitude, ne soit pas difficile à accepter. On peut penser, alors pour prendre d'autres exemples, au désaccord sur la possibilité ou l'impossibilité d'une causalité mentale, sur la nature de l'expérience esthétique, sur les limites entre sémantique et pragmatique en philosophie du langage, sur l'existence d'universaux séparés ou sur la nécessité des lois de la nature. Penser à tout cela en termes de désaccord ne signifie pas que la philosophie demeure bloquée au même endroit. Elle est travaillée de façon continue par des désaccords, mais il y a changement et même progrès, à mesure que certaines façons de poser les problèmes ou de formuler les solutions sont écartées. Ce qui nous amène à considérer la seconde platitude. Les désaccords philosophiques sont persistants sans pour autant être vains. Il s'agit là encore, il me semble, d'une proposition de sens commun. On ne voit pas qu'une option philosophique éradique complètement son adversaire jusqu'au point de non-retour possible. penser au monisme et au dualisme, là encore au réalisme et à l'antiréalisme, ou encore à l'inéisme et à l'empirisme, qui sont passés respectivement de Descartes à Fodor et de Locke au néo-empiriste contemporain comme Barsalou ou Prince. Donc il n'y a pas une des positions qui l'emporte définitivement, elles se reformulent et maintiennent leur désaccord. Une position peut être renforcée ou affaiblie, mais si l'on considère les grandes perspectives philosophiques, alors peut-être qu'il faut appeler ça système, il n'y a pas d'argument fatal. Une autre façon de vous faire sentir cette platitude est de voir que lorsqu'un philosophe n'est pas d'accord avec vous, vous n'en concluez pas nécessairement que c'est un mauvais philosophe. Son opposition n'est pas nécessairement la marque d'une ignorance, d'une acrasie logique ou de l'entêtement. Et quand quelqu'un vous confronte donc avec un argument auquel vous ne pouvez pas répondre, vous n'abandonnez pas pour autant l'ensemble de vos vues et cherchez à trouver une façon de répondre ou d'accommoder ce contre-argument dans le cadre de votre perspective. L'objectivité des problèmes philosophiques, troisième et dernière platitude, il semble que quand les philosophes posent des problèmes, ce n'est pas au sens où... Des criminels posent des problèmes à la police, c'est-à-dire dans le sens où ils créeraient des problèmes. On peut trouver que ce sont des fauteurs de troubles, mais les problèmes dont ils se préoccupent sont censés être découverts, et c'est là une condition minimale de l'objectivité. Cela ne nous apprend pas encore grand-chose de la sorte de réponse qu'ils donnent à ces problèmes, savoir s'il faut les considérer comme justifiés ou vrais dans un sens plus substantiel. Cela ne dit pas non plus qu'il y a un problème philosophique bien posé, s'il doit porter sur des essences, le langage, des concepts ou le monde en général. Mais quoi qu'il en soit, ces problèmes, dans leur variété, sont à chaque fois considérés comme découverts. Ce sont des problèmes qui se posent réellement, indépendamment du fait que tel ou tel les soulève ou s'y intéresse. Les problèmes du philosophe, dès lors, et à compter qu'ils soient bien posés, sont tels qu'ils peuvent appeler une résolution de façon également objective. Par là, je veux dire que les arguments qui sont proposés pour répondre à ces problèmes ne sont pas juste de l'ordre de l'invention astucieuse. S'ils le sont, ils doivent être reformulés de façon à remplir des conditions minimales d'objectivité. Je pense par exemple ici à l'accusation contemporaine qu'ont adressée les naturalistes au discours philosophique d'avoir inventé un certain nombre de concepts et de solutions, comme par exemple le concept de représentation, pour résoudre un problème qui là est vraiment objectif, qui est le problème de la nature, de l'activité cognitive. À partir du moment où le philosophe a inventé un terme d'art pour se sortir du problème, il n'a pas vraiment rempli son rôle, son contrat à l'égard de ce problème. Voilà donc pour les trois platitudes. J'en viens maintenant à la tension entre ces trois déclarations. On voit aisément, il me semble, que ces trois propositions ne sont pas facilement compatibles. Il est difficile de voir comment on peut avoir d'une part un et deux, c'est-à-dire un désaccord continué et non vain, alors même qu'il y a quelque chose d'objectif en jeu, comme le prétend 3. Généralement, accepter que le désaccord se perpétue est, comme en politique, signe qu'il n'y a pas vraiment de solution objective, pas quelque chose qui demeure à découvrir et qui résoudrait le problème. Même chose pour les questions de goût, par exemple, sur celui qui aime... les épinards et celui qui n'aime pas les épinards, le désaccord semble aller de pair avec le fait qu'il s'agisse, si on estime que le désaccord doit pouvoir se continuer, avec le fait qu'il s'agisse là d'une question subjective. On peut saisir la tension dans l'autre sens. Si on accepte qu'il y a un domaine objectif d'enquête pour la philosophie, indépendant des perspectives particulières prises sur celui-ci, on s'attend à ce que le désaccord, s'il y en a un, disparaisse ou se stabilise. Soit l'une des options est finalement rejetée au profit de l'autre, soit, comme dans le cas où on voudrait pouvoir considérer qu'il y a plusieurs options valides, on va observer un respect mutuel où chacune prend des marques bien arrêtées. En d'autres termes, accepter la troisième platitude semble nous obliger à rejeter du moins la seconde. Une fois ces tensions cernées, essayons de nous demander ce que pourrait être tenir à la fois 1, 2 et 3. Ne serait-ce pas dire qu'une proposition et son contraire, ou qu'un système et un autre système incompatibles, peuvent l'un et l'autre être objectivement adéquats. Et c'est de cette tension ou de cette incongruité qu'il s'agit apparemment de sortir. Mais si on a bien posé des platitudes, il ne va pas être si simple de se débarrasser de l'une d'entre elles et de sortir de ce cadre. Pour relâcher la tension, il semble qu'il faudrait abandonner l'une de ces propositions et sans rentrer dans le détail de toutes les stratégies envisagées ou envisageables, on peut donner un aperçu de ce en quoi consisteraient ces abandons sélectifs. Si l'on tient par exemple à l'objectivité, c'est-à-dire à la platitude numéro 3, et que l'on ne peut guère nier le désaccord, donc la première, le plus aisé va être de se séparer de la seconde platitude. En d'autres termes, concevoir que le désaccord n'est que transitoire et en définitive qu'une des perspectives va l'emporter. Ce qui est ce que soutient ce qu'on peut appeler un absolutiste en philosophie, et d'une certaine façon, le naturaliste, qui pense certainement que, se fiant à la science, la philosophie parvient, comme elle, à une solution unique ou à une série de solutions bien définies. Il me semble que c'est ici aussi qu'on pourrait situer une forme de pluralisme qui donc arrête le désaccord dans une certaine configuration d'options strictement incompatible, mais arrêté et également digne d'être choisi. Donc il y a bien le désaccord n'est plus persistant. Si vous voulez, on arrive à une. Il s'est cristallisé de sorte qu'on ne va pas avoir une perpétuation de celui-ci. On peut se demander cependant si le pluralisme ne se détache pas en sous-main également de la notion de désaccord. S'il fige effectivement la pluralité des options, va-t-il continuer à affirmer que ces options sont contradictoires ? Il y a une forme de pluralisme qui me semble au moins être une question à lui adresser. Donc peut-être qu'il se débarrasse aussi en fait de la première platitude. Ce n'est pas le seul à se débarrasser du coup au nom de trois des deux premières. Il me semble que c'est une façon de comprendre ce que dit Wittgenstein dans les investigations philosophiques, en 128, que pour sauvegarder l'objectivité, on doit abandonner la persistance du débat et la notion de désaccord. L'idée d'un désaccord proprement philosophique est continuée. Wittgenstein écrit « Si quelqu'un essaye d'avancer des thèses en philosophie, il ne serait jamais possible de les débattre, car tout le monde devrait être d'accord avec elle. » Mais si sauver l'objectivité est à ce prix, l'abandon de deux de nos platitudes, n'est-il pas également rationnel de tenir ferme sur les deux premières, et donc de rejeter l'objectivité des problèmes philosophiques ? Cela ne va pas nécessairement de pair avec l'idée que la philosophie n'est qu'affaire de sophistique. Cela peut aller de pair avec un scepticisme à l'égard de la philosophie. Il y a des désaccords qui se prolongent nécessairement, et à raison, parce qu'on ne connaîtra jamais rien en philosophie. Il n'y a simplement rien de tel qu'on puisse philosophiquement connaître, au sens où la connaissance est ce qui marquerait la fin du débat. Il est vrai que j'ai ici, dans la même présentation de la position du sceptique, troquer le terme « à raison » pour ce que dit exactement la platitude numéro 2, à savoir que les désaccords ne sont pas vains. De non-vanité des désaccords. Il ne semble pas, dès lors, que si le sceptique considère effectivement qu'il n'y a rien à connaître en philosophie, Il dirait que de continuer à débattre en philosophie n'est pas proprement vain. On pourrait, du coup, plutôt considérer que le sceptique peut, dirait, ce serait une certaine lecture d'une continuation non vaine, pourquoi pas ? Finalement, on ne connaîtra jamais rien, mais si on a du temps à passer, pourquoi pas continuer à en débattre ? C'est, il me semble, ce que suggère Hume, cette lecture sceptique dans l'introduction du traité de la nature humaine, quand il reproche justement l'état de... quand il déplore l'état de la philosophie. Hume écrit « Il n'est rien qui ne soit sujet de débat, ni sur quoi les hommes instruits ne soient d'opinion contraire. » Donc désaccord, s'il en est. « La question la plus futile n'échappe pas à notre controverse et aux questions capitales. » Nous ne sommes pas capables de donner une solution certaine. Les disputes se multiplient comme si toute chose était incertaine, et ces disputes sont menées avec la plus grande chaleur, comme si toute chose était certaine. Dans ce remue-ménage, ce n'est pas la raison, mais l'éloquence qui remporte le prix, et nul ne doit jamais désespérer de gagner des prosélytes à l'hypothèse la plus extravagante, s'il a assez d'habileté pour la représenter sous des couleurs favorables. Ce que Hume décrit ici, c'est la perpétuation d'un certain type de désaccord philosophique qui ne trouvent pas à être résolus, qui ne trouveront pas à être résolus, mais dont on s'en préoccupe avec grande chaleur pour passer le temps d'une certaine façon à ses yeux. C'est ici que Hume, et avec lui le naturaliste, va proposer, pour sortir hors de ces disputes, de réduire les problèmes philosophiques à des problèmes scientifiques qui, eux, sont susceptibles d'être résolus. Donc, c'est la seconde citation de Hume, mais je vais passer sur ce point-là. Donc, c'est un cas, justement, de naturalisme, où pour sauver l'objectivité, et en constatant le désaccord, Hume va abandonner la seconde platitude. Si l'on veut un autre exemple de la façon dont on peut se dédouaner de la platitude numéro 3, c'est-à-dire de l'objectivité, tout en continuant à accepter le désaccord et le fait qu'il perdure sans être vain, il faut également penser à ce que disait la dernière fois Pierre Jacob à propos du naturaliste. Quand le naturaliste prétend justement sauvegarder 3 en rejetant 2, il soutient, s'il doit être conséquent, une thèse controversée et peut donc être amené à devoir soutenir une thèse sur laquelle on peut être en désaccord et de ressouscrire ainsi à la platitude numéro 2. Au risque de favoriser justement les lectures qui sauvent 1 et 2 en dépit de 3. Donc la solution naturaliste ici régresse peut-être en une solution qui sauve simplement 1 et 2. Ça, c'est une configuration un peu complexe sur le sceptique et le naturalisme philosophique. Il me semble que le meilleur exemple d'abandon de la troisième platitude, ce serait, pour vous donner un exemple clair, ce que dit Richard Rorty. Voilà, selon Rorty, ce que le philosophe conséquent doit penser de sa pratique. Il ne doit pas penser qu'il y a quelque chose comme la vérité philosophique. Et le texte met un P majuscule à philosophique. Il ne pense pas même qu'il y a quelque chose que l'on puisse isoler comme les buts pour lesquels nous construisons des façons de parler et des cultures, auxquels on pourrait confronter les façons de parler et les cultures. Il pense, il s'agit du philosophe conséquent que Richard Rorty considère sous le titre de pragmatiste, le philosophe conséquent du moins, pense que dans ce jeu où s'affrontent des façons de parler et les cultures, nous en venons à produire des façons de parler et d'agir qui sont nouvelles, donc quand un nouveau système est produit ou une nouvelle proposition, il s'agit d'une nouvelle façon de parler. Et ces façons nouvelles sont meilleures, mais pas meilleures en référence à une norme préalable, car si norme préalable il y avait, on voit bien que ce serait une façon de réintroduire ici une certaine clause d'objectivité, mais simplement meilleures dans le sens où elles en viennent à paraître clairement meilleures que celles qui les précèdent. Donc le rôle du philosophe, c'est bien effectivement de continuer ce débat. Le débat persiste, il n'est pas vain, puisqu'on produit des façons nouvelles et qui paraissent meilleures. Mais en aucun cas, ici, dans la solution de Rorty, il n'y a l'idée selon laquelle la philosophie se préoccupe en ça de problèmes objectifs. Il n'y a ni vérité ni norme de justification auxquelles adosser les développements culturels que sont les discours du philosophe. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que Rorty ne dit pas qu'il soutient une thèse relativiste. Il s'en est même défendu à plusieurs reprises, et son refus vaut, je pense, pour sa position à l'égard de la philosophie elle-même. Le relativiste, au sens où je voudrais l'entendre, et où il faut l'entendre, à mon avis, entend préserver l'objectivité des perspectives tout en les autorisant à diverger. Il ne veut pas non plus que chacune des perspectives soit simplement une façon de parler. En ce sens, la position de Rorty semble plus proche d'une forme d'expressivisme, c'est-à-dire d'une position selon laquelle ce qu'on appelle proposition philosophique n'a en fait que l'apparence de proposition. Elles ne sont ni vraies ni fausses, ni même susceptibles de l'être. Quand un philosophe asserte quelque chose, il emprunte en fait la forme de l'assertion. Rorty a une autre théorie de l'assertion par ailleurs. Mais cette forme sert simplement à dire, à exprimer une attitude psychologique ou un sentiment qui ne décrit aucune réalité indépendante ou n'obéit à aucune autre norme indépendante de justification. L'un des prix de cet expressivisme est que la pratique du philosophe n'a donc pas de valeur cognitive. Comment, si ce n'est pas cette forme d'expressivisme qu'il faut entendre par relativisme, comment le relativiste peut réintroduire la contrainte d'objectivité? Donc, pour résumer ce point-là, on pourrait croire que c'est effectivement le type d'opposition défendue par Rorty, c'est-à-dire une façon qu'auraient les désaccords de se poursuivre et de les accommoder en disant « mais non, ils ont raison de se poursuivre » ou « il y a un intérêt à ce qu'ils soient poursuivis », que ce soit ce type d'opposition qu'il faille étiqueter comme relativiste. Mais dans la mesure où il se démarque d'une prétention à l'objectivité ou de la contrainte d'objectivité, il s'agit d'un mauvais étiquetage. Alors comment le relativisme va pouvoir conserver les trois platitudes et pourquoi il va différer d'une autre forme qui est le contextualisme? Considérons par exemple le cas de désaccords philosophiques suivants. Les lois de la nature sont nécessaires, telles qu'énoncées par un philosophe A, et les lois de la nature ne sont pas nécessaires ou sont contingentes, telles qu'énoncées par un philosophe B. Si A et B font bien des assertions, on peut leur apposer le prédicat vrai. Les lois de la nature sont nécessaires et vraies, si et seulement si les lois de la nature sont nécessaires. Et les lois de la nature ne sont pas nécessaires, si on se place dans la perspective de B, si et seulement si les lois de la nature ne sont pas nécessaires. Ce qui respecte ici une contrainte d'objectivité avec, même au sens fort, de vérité. Si l'on adopte une perspective absolutiste, les deux propositions se contredisent et elles ne peuvent pas être vraies en même temps. On retrouve ainsi une violation de la seconde platitude, dans le cas d'absolutisme. Le désaccord ne devrait pas se prolonger, l'une d'entre elles est vraie, l'autre est fausse. Ou s'il le fait, violation de la seconde platitude, c'est de façon vaine. Il est bien entendu possible de considérer que les deux philosophies en jeu n'entendent pas exactement la même chose par les lois de la nature sont nécessaires. C'est ce qu'on entend généralement sous le terme de relativisme, alors, qui se décline à plusieurs échelles conceptuelles, linguistiques. Et ici, je voudrais le considérer à l'échelle sémantique, c'est-à-dire à l'échelle des conditions de vérité et des valeurs de vérité de la proposition. La première, donc cette forme de relativisme qui considère qu'en fait, s'il y a contradiction, c'est que les deux propositions disent ou énoncent des choses différentes, peut être formulée dans un cadre inspiré des travaux de Lewis et de David Kaplan. On peut considérer en effet qu'un énoncé n'est pas vrai ou faux absolument. La proposition requiert qu'on attribue une valeur à un certain nombre de paramètres pour qu'elle puisse acquérir une valeur de vérité. Il faut par exemple que l'on assigne une valeur au quantificateur. Ainsi, quand j'énonce « tous les élèves sont endormis », cette proposition nécessite que je précise sur quel domaine je quantifie. S'agit-il de tous les élèves dans une salle déterminée, de tous les élèves dans une certaine ville, de tous les élèves de Tokyo, par exemple, en ce moment, ou de tous les élèves de façon universelle. Donc, il faut qu'on assigne une valeur au quantificateur et que l'on attribue un contexte aux indexicaux. Un autre, alors ici, il s'agit de deux types, si vous voulez, d'éléments contenus dans la proposition qui nécessitent, avant qu'on puisse décider de la valeur de vérité de la proposition, de savoir à quoi il réfère. Exemple, il pleut maintenant. Exemple bien connu, il faut d'abord savoir de quel endroit et de quel temps on parle pour savoir s'il pleut est vrai ou non. Ce n'est donc que dans un contexte et dûment complété qu'une proposition est susceptible d'être évaluée. Considérer qu'elle peut l'être autrement est une illusion dans laquelle s'enferme, ce serait une espèce de faux paradoxe que de se demander par exemple si il pleut est vrai ou faux. Finalement, il y aurait une forme de relativisme un peu trop facile qui serait de dire ben, il pleut, effectivement, c'est vrai, c'était vrai, et puis maintenant c'est faux. Et si c'est la même phrase qui est notée au tableau, alors elle est à la fois vraie et à la fois fausse, et ne doit-on pas être relativiste à propos de la pluie ? C'est certainement pas de ce type de solution dont on peut se contenter. On va pouvoir donc attribuer une valeur de vérité une fois que les énoncés sont replacés en contexte. On est aisément contextualiste à propos d'énoncés qui incluent des indexicaux ou le pronom personnel « je ». Une première lecture du coup du contextualisme en philosophie, ce serait de penser que toutes les assertions philosophiques sont précédées d'une déclaration personnelle. Du genre, quand A dit « les lois de la nature sont nécessaires », ce qu'il dit en fait, c'est « je crois » ou « je pense » ou « j'asserte » que les lois de la nature sont nécessaires. Et B, « je crois » ou « je sais » que les lois de la nature sont contingentes. Ces deux énoncés étant vrais, respectivement, si les deux locuteurs croient sincèrement leurs propos. Le problème avec cette solution contextualiste qui fait apparaître des expressions indexicales masquées, si vous voulez, à l'intérieur des énoncés philosophiques, c'est qu'on peut admettre que ce n'est pas vraiment ce que disent les philosophes. Dire, ni même d'ailleurs, que quand ils énoncent une proposition, pas plus que quand je dis « il pleut », mon énoncé est équivalent à l'énoncé suivant, je crois qu'il pleut. Il y a, dans un cas, j'énonce, le contenu de mon assertion est différent. Dans des énoncés, alors il semble que c'est ici la réponse à laquelle le contextualiste devrait devrait faire la question auxquelles il devrait faire face, à savoir comment s'accommoder du fait qu'il y ait un peu une indexicalité sur la croyance personnelle qui soit présente dans les assertions philosophiques, alors même que c'est ce dont se défendent les philosophes. D'autre part, le contextualiste a une autre façon non indexicale de référer le sens des propositions au contexte. Les paramètres, et c'est là un renforcement de la solution contextualiste, n'ont pas nécessairement à apparaître ou à être cachés dans l'énoncé. C'est pas comme, par exemple, s'il y avait l'expression « je sais que » ou « je crois que » qui gît dans l'énoncé lui-même. Ce n'est pas, par exemple, comme quand je dis « il pleut », je n'ai pas besoin d'énoncer « il pleut maintenant », c'est comme un paramètre caché dans l'emploi du temps présent. Quand je dis « il pleut », je veux dire « il pleut ici et maintenant ». Donc, si on ne peut pas faire apparaître facilement ce genre de paramètre dans le contenu de l'énoncé du philosophe, on peut quand même défendre une forme de contextualisme non indexical. On peut maintenir que le contenu des propositions doit être évalué relativement au contexte, sans penser qu'il y ait un indice à l'intérieur de la proposition elle-même qui requiert qu'on lui assigne une valeur contextuelle particulière. C'est ce forme de contextualisme non indexical qui paraît une version plus forte et plus tentante du relativisme au sens large, notamment en philosophie. Il ne semble pas, en effet, que dans ce contextualisme, il soit nécessaire que les paramètres soient relatifs à des états subjectifs du locuteur. Rien dans le contextualisme ne le justifie. Par exemple, quand je dis « il pleut », les valeurs qui sont assignées à « maintenant » et « ici » ne renvoient pas à des traits de ce que je crois être le « maintenant » et le « ici », mais à des traits objectifs de la situation. Ils peuvent inclure ainsi des valeurs relatives au contexte au sens large, l'état des connaissances, autant que les préférences de celui qui parle, ou même les intuitions rationnelles d'un agent. Ainsi, la vérité du relativiste contextualiste est moins tolérante qu'il n'y paraît et peut inclure les paramètres que l'on considère pertinents pour qu'une assertion philosophique soit vraie. Quand A dit « les lois de la nature sont nécessaires », son assertion doit être évaluée donc, relativement au contexte, par exemple des connaissances scientifiques dont il dispose, ou bien des intuitions rationnelles auxquelles il est parvenu par la construction d'une expérience de pensée. Ce qui permet au contextualiste de faire en sorte, ce qui n'est pas le cas du contextualiste de tout relativisme, de préserver l'idée que certaines assertions puissent être fausses. Si, par exemple, je prétends que la proposition suivante est une proposition philosophique, le monde a été créé il y a 5 minutes. Même, ce qu'on pourrait me répondre, c'est que même si je le crois fermement, donc dans ce sens, évaluer relativement à contexte de mes croyances subjectives, mon énoncé se sortirait comme contextuellement faux, il est toujours contextuellement... s'il était évalué relativement simplement à mes croyances subjectives, il serait contextuellement vrai. Mais s'il est évalué dans un contexte plus pertinent pour l'évaluation d'énoncés philosophiques, comme l'état actuel des connaissances scientifiques les mieux établies, alors cette assertion philosophique est fausse. Si je dis « le monde a été créé il y a 5 minutes sur la base d'une expérience de pensée », mon énoncé peut de même demeurer contextuellement faux s'il est faux dans le contexte de mon énonciation, que tous les sujets rationnels partagent cette intuition. Et ce qu'ont montré ici les études de Sich et Werner dans une étude intitulée Normativity and Epistemic Intuitions, c'est que les agents rationnels diffèrent quant à certaines conclusions de leurs expériences de pensée. Donc la base contextuelle, si elle est limitée au sujet lui-même, ne fait pas vraiment le travail qu'on peut attendre d'un relativisme conséquent, mais si on l'étend à un certain nombre de dimensions qui sont au contraire pertinentes pour l'évaluation des propositions philosophiques, alors on peut s'en tirer de façon plus cohérente. Ce que fait ainsi le contextualiste, c'est plus que d'indexer la vérité ou la signification sur un monde possible. Dans un même monde possible, là où on parle des mêmes lois de la nature, il est possible que la proposition énoncée par A et la proposition énoncée par B soient vraies, une fois qu'elles sont donc contextualisées. Il y a cependant d'importants défauts dans cette position, et ce par rapport à notre point de départ lui-même. En effet, ce qu'on voit, c'est que cette position ne préserve pas le désaccord. Si les deux propositions, désormais douées de valeur de vérité, semblent se contredire, les deux énonciations, une fois paramétrées, ne signifient pas la même chose. Au même titre qu'il pleut ici et maintenant, c'est la même proposition, mais une fois paramétrée, ça ne signifie plus exactement la même chose. Dans un cas, c'est il pleut ici à Paris, et dans l'autre cas, il pleut ici à Tokyo. Et donc, le contenu étant différent, elle ne signifie plus exactement la même chose et ne se contredisent pas. C'est un premier point qui fait que cette solution relativiste contextualiste ne préserve pas une des platitudes, à savoir un véritable désaccord. Par ailleurs, elle fige, et il me semble que c'est là un défaut, les vérités philosophiques. Une fois la vérité relativisée à son contexte d'énonciation, toute vérité pour un certain contexte C est susceptible de compter comme vraie dans tous les autres contextes d'évaluation. Pour vous prendre un exemple, si je dis « je suis fatiguée », et si mon assertion est vraie, énoncée à un contexte CU, alors il doit être vrai dans tout autre contexte qu'il était vrai que j'étais fatiguée à CU. Il est vrai que je suis fatiguée à CU. S'il est vrai ainsi, pour le philosophe A, que les lois de la nature sont nécessaires et que... C'est la valeur de vérité sort une fois qu'on a contextualisé cette proposition, alors il doit être vrai à tout autre contexte que cette proposition est vraie. C'est une forme de retour à l'absolutisme et une façon assez économique de l'avoir de la vérité philosophique qui passe d'un contexte à l'autre. Ce que le relativisme au sens fort, va proposer de faire, est donc différent. Mais en quoi ? Il va proposer que la vérité d'une proposition soit relative non seulement à un contexte d'énonciation, comme le contextualiste, mais à un contexte d'évaluation. Ainsi, la proposition énoncée par A, donc l'assertion de A, les lois de la nature sont nécessaires, devient dans l'analyse du relativiste vrai énoncé à CU relativement au contexte d'évaluation E. C'est ce qui doit apparaître sur votre formulaire. Donc, les lois de la nature sont nécessaires, énoncées à CA et vraies, évaluées à CE, et les lois de la nature ne sont pas nécessaires, énoncées à CB et vraies, évaluées relativement à CE. Le paramètre E, d'évaluation, prend la valeur de l'évaluateur. Les propositions n'ont pas de valeur de vérité indépendamment de l'assignation de cette double, de ces doubles séries de ces deux séries de paramètres, le contexte d'énonciation et le contexte d'évaluation. En quoi est-ce que cela se différencie du premier contextualisme ? Eh bien, c'est que par ce redoublement, on va éviter la possibilité, les défauts du contextualisme. Il y a en effet une possibilité de désaccord véritable si E est fixé. Dans chaque contexte d'évaluation, c'est E, une seule des propositions peut être vraie. Et 1 et 2 peuvent continuer à se contredire réellement. Ce qui va demeurer relatif, c'est que la première proposition peut être vraie relativement à certains contextes d'évaluation et faux relativement à d'autres. Donc un des défauts majeurs du contextualisme, qui était de supprimer le désaccord, en minimisant les paramètres énoncés par le premier contextualiste en faisant simplement des paramètres relatifs au contexte d'énonciation et en prenant en charge les paramètres de l'évaluation, peut se sortir de cette absence de désaccord. Si la notion de vérité continue à s'appliquer, il y a bien quelque chose d'objectif et la clause numéro 3 continue de s'appliquer. Pour prendre un exemple, si je considère que les deux, pour quitter le domaine philosophique, si je considère par exemple que les épinards sont mauvais et vrais, les épinards sont délicieux, énoncés par moi ayant 4 ans, et les épinards sont délicieux, je ne sais plus ce que j'ai dit au début, ne sont pas délicieux à 4 ans, et sont délicieux maintenant. Relativement à un contexte d'évaluation qui, en ce cas, coïncide avec l'état maximum d'information dont je dispose, le premier jugement qui peut sortir vrai dans le contexte d'énonciation peut malgré tout sortir comme faux relativement à mon contexte d'évaluation présent. C'est ce redoublement qui permet de me faire dire que aujourd'hui, je n'avais pas raison de considérer que les épinards étaient mauvais. Donc c'était vrai à l'époque, c'est l'idée du contextualiste, mais une fois qu'on a redoublé la série d'évaluations, ce qui était vrai à l'époque est faux désormais. Mais ça me permet de maintenir que c'était vrai au moment de son énonciation. Quels sont alors il y a tout un... C'est une version littéraire d'une série de papiers publiés par John McFarlane sur cette notion de vérité relative qu'il applique à d'autres cas certainement moins compliqués que celui de la philosophie, mais non moins délicat, notamment le cas des futurs contingents ou le cas des jugements de goût, comme je viens de le faire. Quelles sont alors les objections possibles à ce relativisme ? Et est-ce qu'il nous permet effectivement de continuer à considérer en philosophie, comme on le voulait, qu'il y a des accords, que le désaccord se poursuit, mais que chaque philosophie a bien sa prétention à l'objectivité. Plusieurs objections. La première serait celle énoncée par Bernard Williams dans « Truth and Truthfulness » à l'égard du relativisme en général. Est-ce qu'on n'est pas encore dans un cas, dit Williams, où le relativisme vient se mouvoir là où il y a un conflit, et vise à éradiquer le conflit en montrant qu'il est seulement apparent. Dans le cas présent, s'il faut dire, un relativiste à proprement parler devra insister qu'un genre d'interprétation, ou ici un genre de philosophie, fait sens pour un groupe de personnes et une autre pour un autre, et le problème s'arrête là, il n'y a plus de conflit. C'est l'objection classique au relativiste. Mais il semble que le relativiste au sens fort ne propose pas de dire que P est vrai pour certains et non-P est vrai pour d'autres. Ce relativisme conséquent bloque la possibilité même de cette lecture. Si vous pouvez considérer, comme dans la citation de Williams, alternativement P et non-P, c'est-à-dire P et non-P, une fois qu'elles ont commencé à acquérir leurs conditions de vérité en étant contextualisées par leur contexte d'énonciation, si vous pouvez les considérer alternativement, ces deux assertions, c'est nécessairement à partir d'un seul et même contexte dans lequel vous êtes situé, qui est le contexte d'évaluation. Il n'est pas possible de les considérer en dehors de tout contexte d'évaluation CE. Or, dans tout contexte d'évaluation, P et non-P ne peuvent être vrais en même temps. Donc l'idée qu'on reproche souvent aux relativistes, à savoir, oui, mais bon, on s'en sort avec ces deux, c'est un conflit qui n'existe plus, est impossible dans le cas du relativisme fort. La plupart des objections, du coup, adressé au relativisme ne s'applique pas dans ce cas-là, puisqu'il requiert qu'on évalue à partir d'un contexte, que la vérité des assertions soit jugée non seulement par rapport au contexte d'énonciation, mais par rapport à un second contexte d'évaluation, et que tout soit relativisé à un contexte d'évaluation. Une seconde objection que je n'aurai pas le temps de poursuivre, qui a été adressée au compte-rendu de MacFarlane, c'est que le contenu de la croyance, si ce que j'asserte doit être aussi le contenu de ma croyance, n'est alors plus vraiment entier. S'il doit attendre le contexte d'évaluation, d'accord, la position du relativiste, c'est que le contenu de mon assertion n'acquiert une valeur de vérité qu'une fois qu'il a été paramétré sur ces deux contextes. Ce que je crois simplement au moment où j'énonce n'est pas vraiment une proposition. Sa valeur de vérité n'est pas fixée. Je crois quelque chose sans valeur de vérité. Or, par définition, quasiment, on accepte généralement que le contenu de la croyance, si je crois vraiment quelque chose, est une valeur de vérité. Ça ne me semble pas forcément une objection gênante en philosophie, dans la mesure où le statut des propositions philosophiques reste à déterminer, autant que le statut des assertions. Devoir reconnaître que le contenu de nos assertions philosophiques est une forme de contenu qui ne tient pas tout seul, qui n'a pas sa vérité en soi, mais qui requiert d'être paramétré nécessairement sur un contexte d'évaluation, ne me semble pas une voie absolument une voie qu'il s'agisse de craindre. Il y a pourtant une objection qui me semble digne de mentionner pour finir. Si, et c'est un peu pour revenir à ce que je disais au début, à savoir qu'on peut être relativiste à propos de la philosophie, sans que ça implique autre chose ailleurs. Si on a cette définition de la vérité, des valeurs de vérité en philosophie, on va perdre de vue un peu la façon dont, si on veut continuer à parler de connaissance philosophique, si la connaissance philosophique est connaissance vraie, dans ce dispositif, là où les valeurs de vérité dépendent de ces deux contextes, comment va-t-on fournir une définition unifiée de la connaissance si par ailleurs on est dans un système où, très classiquement, la connaissance que P implique que P soit vrai absolument et P soit justifié absolument. L'idée, c'est que donc, si on veut, on a finalement un peu introduit le loup dans la bergerie, dans la mesure où si on a proposé ici une notion de connaissance et de philosophique, donc sauver 3 en disant qu'il s'agit d'une vérité avec ce redoublement d'évaluation, il semble difficile du coup de maintenir cette position et en même temps l'unité du concept de connaissance qui doit continuer à s'appliquer ailleurs, notamment en science. Et si effectivement ça nous oblige à avoir 2 concepts de connaissance, à quoi est-ce qu'on peut vraiment... Parce que c'est une option qu'on a envie de prendre. Et s'il faut réconcilier les 2, ça semble une tâche difficile. Donc voilà le point qui me semble plus poser problème pour conclure. Merci.
Merci. Ben je remercie vivement Ophélia de Roy pour son exposé, auquel j'ai à peu près rien à reprocher. Bon, il était extrêmement substantiel, extrêmement éclairant, et il avait le mérite, je crois, de véritablement d'aborder de fond une question que les philosophes en général ont plutôt tendance à éviter pudiquement. On n'aime pas trop poser directement la question de savoir s'il y a ou non une vérité en philosophie, si à supposer qu'il y en ait une, elle peut être en quelque sens que ce soit absolue ou si elle ne doit pas être reconnue ouvertement comme relative, etc. Donc c'est un problème tout à fait crucial et que vous avez traité de façon extrêmement approfondie, la question de savoir bon, quel est le degré de contextualisme et de relativisme, vous avez eu raison de distinguer les 2 choses, dont la philosophie pourrait à la rigueur s'accommoder. Est-ce qu'il y a un degré de ces 2 choses, que ce soit le contextualisme ou le relativisme, dont la philosophie peut faire son affaire? C'est un problème majeur parce que on peut être tenté de penser, il y a des raisons de penser, que s'il y a réellement une notion de vérité qui est utilisable dans le cadre de la philosophie, elle ne peut guère être qu'absolue, ou enfin, peut-être plus exactement, il est particulièrement difficile pour un philosophe, tout en énonçant ce genre de vérité, d'admettre, au moins implicitement, qu'elle pourrait n'être que relative. Hein. Et historique, c'est plus difficile que pour un scientifique, je crois, en dépit du fait que, bien sûr, les scientifiques savent parfaitement, ou en tout cas sont censés savoir qu'il y a une histoire de la connaissance et que ce qui est reconnu comme vrai aujourd'hui ne sera peut-être plus vrai demain. Mais encore une fois, on peut être enclin à penser que c'est plus difficile pour un philosophe. Et je pense par exemple à ce qui se passe. Vous savez comme moi que Nietzsche pensait que le sens historique était la chose dont les philosophes sont les plus dépourvus. Il leur a reproché ça violemment à différentes reprises. Et il y a une excellente raison à ça. Ça peut être qu'il y a une espèce d'incapacité intrinsèque chez eux à reconnaître que la vérité à laquelle ils sont en mesure d'accéder ne peut être qu'historique. Ainsi, ils ont besoin d'une notion de vérité qui, justement, devrait, semble-t-il, posséder un caractère un peu plus ou moins un historique. Alors, je pense par exemple à la façon dont les choses se passent chez Guéroux, qui est tout à fait significative, hein, c'est-à-dire les gens comme Guéroux, on arrive à peu près à dire que tous les systèmes philosophiques sont vrais, mais ce n'est pas du relativisme, parce qu'ils ne se contredisent pas vraiment dans la mesure où ils ne parlent pas de la même chose, hein, c'est-à-dire ils sont vrais 2 choses différentes, puisque chaque système philosophique construit son propre réel philosophique, il n'y a pas de réel indépendant, dont les différents systèmes philosophiques en compétition essaieraient de rendre compte. Hein. Ça se coupe. Moi, je considère ça comme une solution véritablement désespérée, qui en plus bon, est typiquement idéaliste, puisque ça revient à dire que le réel dont un système philosophique rend compte et dont il est vrai est un réel qui lui correspond de façon exclusive. Hein. Ce n'est pas le réel d'un autre système. Donc, il s'agit d'un véritable problème, qui est un problème majeur, et dont vous avez, je trouve, remarquablement traité. Il y a une ou deux perplexités que j'ai eues en vous écoutant, bon, sur lesquelles, si vous me permettez, j'aimerais vous demander quelques précisions. D'abord, en ce qui concerne vos 3 platitudes, alors, je pense qu'il aurait été utile de préciser platitude pour qui. Parce que, comme vous savez, le caractère platitudinaire, si je peux m'exprimer ainsi, d'un énoncé est lui-même contextuellement déterminé, dans une mesure considérable. Hein. Alors, est-ce que c'est des platitudes pour les philosophes ? C'est sûrement pas des platitudes. Enfin, je suppose que c'est des platitudes pour les philosophes, mais ce n'est pas des platitudes pour tout le monde. Hein, parce que, par exemple, la platitude numéro 2, les désaccords philosophiques sont persistants sans pour autant être vains, ça, c'est une assertion éminemment philosophique. Pour beaucoup de gens, surtout quand ils ne sont pas philosophes, le fait que les désaccords philosophiques sont persistants prouve qu'ils sont vains. C'est-à-dire le fait qu'ils sont persistants et qu'ils semblent devoir persister indéfiniment suggère à leurs yeux qu'on ferait mieux d'arrêter tout simplement de les discuter. Hein. Alors, donc, ce sont les ennemis de la philosophie qui, en général, disent ça, hein, que les désaccords philosophiques sont persistants et donc vains. Mais ça fait partie, je suis d'accord avec vous, du credo philosophique que de maintenir, le fait de maintenir que bien que persistants, ils sont tous sauf vains. Ils sont au contraire extrêmement importants. C'est-à-dire, on n'arrive jamais à décider une question quelconque, mais il n'empêche que les questions et les désaccords, les questions sont d'une importance suprême et les désaccords le sont aussi. Donc ça ne fait rien que, ça n'a pas d'importance qui persiste indéfiniment. Alors, à propos de la platitude 1, je me suis posé aussi la question suivante. Les philosophes sont en désaccord les uns avec les autres à propos de la philosophie. Alors là, il y a un problème sur lequel peut-être vous auriez pu en dire un peu plus, c'est qu'une des particularités de la philosophie semble être que les philosophes ne sont pas seulement en désaccord sur la réponse à donner aux questions qu'ils se posent, c'est-à-dire aux questions philosophiques, mais en désaccord total sur ce qu'est la philosophie. Sur ce qu'est un problème philosophique, sur ce qu'est un problème philosophique intéressant. Donc il y a un désaccord concernant la nature de la discipline, la question de savoir sur quoi elle porte exactement, ce que sont véritablement ces problèmes, qui semble plus radical que dans le cas des sciences. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir un désaccord de cette sorte dans le cas des sciences. Si vous pensez aux empoignades incroyables qu'il y a eu entre deux mathématiciens comme Brouwer et Hilbert, et au nom d'oiseaux dont ils se sont traités, c'est quelque chose d'effrayant, le degré d'antipathie et de haine caractérisée qui a pu naître entre deux mathématiciens de tout premier ordre, l'un et l'autre, et qui était un désaccord bel et bien sur la nature des mathématiques, finalement. C'est-à-dire qu'ils n'étaient absolument pas d'accord sur ce qu'étaient les mathématiques. Mais ça n'entraîne pas des conséquences aussi radicales que dans le cadre de la philosophie. C'est-à-dire qu'ils pouvaient quand même arriver à se mettre d'accord sur la solution à apporter à certains problèmes. Pas tous, puisqu'il y a des problèmes que les mathématiciens classiques considèrent comme résolus et qui, aux yeux des les intuitionnistes ne le sont pas. Bon, il y a des théorèmes qui sont démontrés au sens considérés comme démontrés, et donc vrais au sens classique du terme, mais pas au sens intuitionniste. Donc il y a des désaccords radicaux, mais il y a tout de même la possibilité d'un certain accord, si vous voulez, sur la réponse, la solution à donner à au moins certains problèmes philosophiques. Tandis que dans le cadre de la philosophie, ça ne semble pas se passer comme ça. En ce qui concerne les désaccords concernant la nature même de la philosophie, prenez les différents livres qui ont été écrits pour répondre à la question « qu'est-ce que la philosophie ?» Hein, comparez la réponse de Villemin, celle de Deleuze-Guattari, celle de Wittgenstein. On a l'impression que les gens sont véritablement d'accord sur rien. Quand Deleuze dit « les Wittgensteiniens sont des assassins de la philosophie hein, », pourquoi, à votre avis, dit-il ça? Il pourrait dire « ils ont une autre façon de faire de la philosophie qui n'est pas la mienne ». Mais il dit « ce sont des assassins de la philosophie ». Autrement dit, il illustre de façon typique une déclaration de Valéry que je cite souvent. « Alors que les peintres se disputent leur rang, les philosophes se disputent l'existence ». Autrement dit, la réaction d'un philosophe à l'égard d'un philosophe qui pense contraire de ce que lui-même pense, c'est pas « il philosophe autrement ». Je pense qu'il a tort, mais c'est néanmoins un philosophe. Enfin, c'est pas du tout. C'est dans certains cas, en tout cas dans la plupart des cas, c'est pas du tout un philosophe. Ce qui veut bien dire que même les gens comme Deleuze ont une extrême difficulté à accepter une forme de relativisme. Parce que, à propos de la... Ça m'amène à vous dire encore un mot, puis après j'en aurai terminé, pour le moment, de la platitude 3. Hein, la philosophie s'occupe de problèmes objectifs. Alors, vous avez donné des précisions sur ce que vous entendez par là. La philosophie s'occupe de problèmes objectifs, ça veut dire en gros, si je vous comprends bien, elle s'occupe de problèmes qui sont découverts, hein, mais qui ne sont pas inventés. Ce ne sont pas des problèmes qui sont inventés, qui sont fabriqués artificiellement, ou enfin, inventés subjectivement en tout cas. Mais, par exemple, est-ce que si on dit, comme le fait Wittgenstein, que les problèmes philosophiques sont, au fond, naissent de confusion linguistique, est-ce qu'on peut encore les qualifier de problèmes objectifs? Beaucoup de philosophes, pour un philosophe comme Bertrand Russell, dire ça, dire que les problèmes philosophiques naissent simplement de confusion linguistique, c'est leur enlever toute espèce, tout caractère objectif. Ça veut dire qu'ils n'ont plus rien à voir avec des questions ayant trait au réel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là, vous connaissez tout ça par cœur, aussi bien et mieux que moi. Donc, en ce qui concerne ces trois platitudes, je pense qu'il faudrait un ensemble de précisions qu'il faudrait peut-être essayer d'apporter. Et en tout cas, il faudrait, je crois, dire plus clairement si... aux yeux de qui ce sont des platitudes. Alors, il y avait différentes autres questions dont je voulais vous parler. Oui, alors, en ce qui concerne Hume, il y a un passage de Hume, qui se trouve d'ailleurs tout près de celui que vous avez cité, si je me souviens bien, qui est aussi très éclairant. Hein, c'est quand il dit « Aujourd'hui, la victoire n'est pas remportée par les combattants de l'armée, les hommes qui portent la pique et l'épée, mais par les trompettes, les clairons, les musiciens de l'armée.
Voilà, »
Je cite souvent cette phrase, que je trouve de plus en plus d'actualité. Alors, elle est intéressante parce que, si vous voulez, Hume, à un certain moment, on arrive à peu près à dire que le problème, c'est même pas tellement qu'il n'y a peut-être pas de... Il n'y a pas de matter of fact à décider. Hein. C'est peut-être pas tellement qu'il n'y ait pas de vérité objective, mais c'est que même s'il y en avait une, c'est quand même les trompettes, clairons et les musiciens qui l'emporteraient. Si vous voulez. C'est pas les gens qui... ce n'est pas les gens qui sont en mesure... C'est un aspect du problème aussi qui a son importance. Hein. C'est pas les gens, en philosophie, c'est pas les gens qui sont en mesure... qui sont, disons, un peu mieux armés que d'autres, et peut-être plus, disons, plus attentifs et plus courageux et plus travailleurs que d'autres, et de ce fait, ont plus de chances d'accéder à la vérité s'il y en a une. Ce n'est pas ceux-là qui gagneront, hein, mais c'est ce que Hume appelle les trompettes, clairons et les musiciens de l'armée. Et alors, oui, en ce qui, dernière chose, en ce qui concerne le problème de le caractère nécessaire des lois de la nature, je ne sais pas à quel philosophe vous avez pensé plus particulièrement, mais il y a eu une confrontation fameuse hein, entre Poincaré et Boutroux sur ce thème. Boutroux a écrit un livre intitulé « La contingence des lois de la nature » contre lequel Poincaré s'est déchaîné. C'est d'autant plus amusant que, sauf erreur de ma part, Boutroux était le beau-frère de Poincaré. Mais enfin, ça n'empêche pas les polémiques philosophiques. Et alors là, oui, c'est intéressant parce que, évidemment, on peut être tenté de se dire « les gens sont en désaccord sur des questions de cette sorte ». Parce que, il y a quelque chose qui intervient, c'est l'état des connaissances. Mais là, l'état de connaissances, on peut penser que c'est le même. Hein, c'est-à-dire, et Boutroux n'est pas un ignorant en philosophie des sciences, hein, loin de là, même si, évidemment, c'est pas Poincaré. Donc, c'est aussi ça qui fait le caractère un peu radical et douloureux des questions philosophiques. Hein, c'est qu'on a le sentiment que des gens ayant sensiblement le même espèce de connaissances, en particulier le même type de connaissances extra-philosophiques, peuvent néanmoins se trouver dans des désaccords violents et radicaux. Bon, je m'arrête là parce que j'ai déjà posé beaucoup de questions.
La citation de Hume, celle exactement qui, c'est la phrase suivante après représentée.
C'est
exactement la phrase qui suit. Et lui-même propose, dans la citation que je n'ai pas lue, justement, de prendre la pique et l'épée et d'abandonner la fastidieuse et lente méthode, oui. Il écrit, et de prendre, au lieu de prendre ça et là un château et un village, marcher directement sur la capitale.
Si vous me permettez, juste une minute, oui, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on a l'impression que Hume dit, tant qu'à faire, il faudrait au moins se battre réellement et courageusement. Mmh. C'est-à-dire, il dit, ce qui n'est pas satisfaisant, ce n'est pas qu'on se batte en philosophie, mais c'est au contraire qu'on ne se batte plus, vraiment, et que ce soit les trompettes, les clairons, les musiciens, c'est-à-dire ceux qui font la meilleure musique, et ceux qui font le plus de bruit qui l'emportent. Bon, enfin, c'est une remarque... accessoire.
Donc sur le statut, avant de voir, sur le statut des platitudes, c'était peut-être c'est plus des platitudes effectivement de philosophes, descriptives de la pratique des philosophes par les philosophes. Je suis d'accord qu'on n'accède peut-être pas aux autres platitudes, mais platitudes dont par ailleurs on cherche à convaincre peut-être suffisamment l'opinion pour qu'elle soit partagée. Donc, et si les platitudes ne sont même pas partagées par les philosophes, comme je voulais le montrer, puisque certains en fait renonce ou, comme Rorty par exemple, veut abandonner l'idée, au contraire, c'est tout sauf une platitude, enfin, c'est une illusion perpétuée par les philosophes sur leur propre discipline, qu'il s'agit là de quelque chose d'objectif, là où d'autres vont, au contraire, comme les naturalistes, abandonner l'idée qu'il doit y avoir un désaccord continuel. Ça dépend exactement la vue qu'ils ont à l'égard des sciences. Mais une par une, pour les préciser encore plus, peut-être on va commencer par la dernière, sur votre notion d'objectivité. Le cas de Wittgenstein est intéressant, que Russell s'écrit effectivement que considérer qu'il s'agit là juste de problèmes de clarification du langage, c'est abandonner la discipline. Il ne semble pas qu'on se place dans le contexte justement d'évaluation wittgensteinien, que ça aille de pair avec l'abandon de l'objectivité. De sorte que, ici, si on fait de la définition de la philosophie elle-même un problème philosophique, la solution du relativiste fort peut continuer à s'appliquer et dire qu'il y a, effectivement, dans ce désaccord, quelque chose d'irréconciliable entre contexte d'évaluation de l'assertion sur ce qu'est la philosophie. Sur l'analogie, du coup, avec le désaccord en mathématiques, il semble que ce soit un peu la même chose. Ma question par rapport à la solution du relativiste et ce double contexte, c'est de savoir si finalement on voudrait que les contextes d'évaluation à partir desquels on va évaluer suffisamment contextualiser les assertions philosophiques sont eux-mêmes des contextes d'évaluation qui se définissent en termes d'options philosophiques. Si c'est le cas, alors on risque d'être entraîné dans une régression. Si on arrive à parvenir au fait que la différence ultime des contextes d'évaluation dans lesquels, du coup, les propositions philosophiques se trouvent jugées, soit un autre désaccord ultime, par exemple, entre les types de logique, justement, qu'on admet, alors on peut sortir de la régression. Mais pour ça, il faudrait que le contexte d'évaluation des propositions de la philosophie, y compris sur la philosophie, puissent être extérieures à la philosophie, ce qui est le cas s'il est logique. Mais si on ne parvient pas à avoir bien isolé ce type d'évaluation, et est-ce qu'on ne peut pas, dans ces cas-là, philosophiquement continuer à être en désaccord sur la légitimité d'une évaluation de la philosophie par la logique. Donc, peut-être qu'on est entraîné à une régression. Ce qui semble ouvert, c'est la possibilité de stopper quand même cette régression, du moins si on arrive à faire rentrer l'évaluation de l'ensemble des propositions philosophiques dans le schéma recommandé par le relativiste. Donc voilà, comme le cas du désaccord mathématique, s'il se ramène en définitive à une question de désaccord sur la logique qu'il s'agit d'adopter.
Oui, alors c'est un désaccord sur la logique, mais c'est aussi un désaccord qui est proprement et profondément philosophique. Le désaccord entre Bauer et Hilbert, ce qui explique sa violence. Si c'était un désaccord mathématique stricto sensu, avec, si vous voulez, à l'arrière-plan, un accord sur les méthodes à utiliser, du point de vue mathématique, bon, il n'aurait jamais pris une forme aussi violente. Il n'a pu prendre cette forme que parce que c'était un désaccord qui était en grande partie philosophique. Le désaccord philosophique, vous avez raison, se traduisant concrètement dans la question de savoir quelle logique utiliser. Je suis de votre avis. Donc la logique est impliquée, Dieu sait, le principe du tiers exclu, etc. Mais il y a un désaccord qui me semble avoir été profondément philosophique. Il y a d'autres exemples de ce genre dans l'histoire des sciences, mais on ne va pas y insister. Juste, oui, une dernière question que je voulais vous poser, j'ai oublié de vous poser. Est-ce que vous êtes convaincu par Rorty quand il prétend qu'il n'est pas relativiste ? Moi, je ne le suis pas du tout. Mais Je voudrais savoir si vous l'êtes.
À propos, alors si on limite à ces propos sur la philosophie, il me semble qu'il il sera plus du côté d'une forme d'expressivisme et même pas d'un subjectivisme, parce que Horty souligne...